Timothée parlait à des pasteurs, à un jeune pasteur, la lettre de Paul à Timothée. On a entamé la lettre de Paul à Tite, qui est aussi une lettre qu'on dit pastorale ou une épître pastorale, autrement dit une lettre pour un pasteur. Mais vous allez voir que dans le chapitre 2, il est aussi beaucoup question des personnes dans l'Église. Et si on devait mettre un titre à Tite, non, mauvais jeu de mots, si on devait mettre un titre à ce passage des premiers versets du deuxième chapitre, ce serait une Église en bonne santé. Je vais vous inviter à lire avec moi, page 244 dans la Bible à la colombe, si vous avez utilisé la Bible qu'on vous a passée. Je lis. « Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisant, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Regardez ce passage. Et encore une fois, ça s'inscrit à la suite. Quand vous lisez un texte dans la Bible, soyez sûr d'avoir le contexte, parce que quelqu'un a dit, et c'est juste, qu'un texte sans contexte, ce n'est qu'un prétexte. Autrement dit, on peut toujours isoler un bout de verset et lui faire dire n'importe quoi, tordre le sens à partir de quelques mots, mais si vous prenez la précaution de lire le passage, de lire tout le livre, de lire tout le Testament, l'Ancien, le Nouveau, duquel c'est tiré, de lire toute la Bible, ça va à coup sûr vous corriger et vous orienter. Et souvent, des gens vont faire des pratiques un peu bizarres qui sont extraits d'un seul verset dont le sens n'est pas bien clair, et ça va être pris comme une parole d'évangile claire et nette, alors que ça ne l'est pas. Et tout ça pour dire que, avant de parler du chapitre 2, il est bon de se rappeler que dans le chapitre 1, Paul avait envoyé Tite, son jeune protégé, qu'il appelait son enfant légitime en notre commune foi, autrement dit, c'est lui qui l'avait amené au Seigneur. Il l'envoyait en Crète pour mettre en ordre des choses que Paul n'avait pas eu le temps d'établir fermement, ou des choses qui avaient peut-être dévié un peu. Et il lui avait donc dit de mettre en place des pasteurs, des anciens, des évêques, comme le terme est quelquefois utilisé, qui se distinguent des faux enseignants par une juste doctrine. Et il avait repris la sagesse même de ces Crétois, ces habitants de la Crète. L'un d'eux avait dit en effet que tous les Crétois étaient des menteurs, des bêtes méchantes et des ventres paresseux. En anglais, c'est des lazy gluttons, des gloutons paresseux. Et Paul leur dit, en fait, c'est la vérité, ce qui est un peu surprenant. Mais il y avait une certaine vérité. Il y a des choses qui s'attachent à une culture. Et ce qui est important, c'est de réaliser que l'évangile, il n'a pas de frontières. Parce qu'il parle au cœur de l'homme, il parle à toute l'humanité. Certains disent, ah oui, Calvary Chapel, c'est une religion américaine, c'est la foi américaine. Non, les principes de Calvary Chapel sont éternels. C'est pas Calvary Chapel en elle-même, mais le fait d'enseigner la parole de Dieu systématiquement, de la connaître, de la mettre en application, de vivre l'amour, d'aller toucher les autres, ce sont des principes bibliques. Et donc en ça, Calvary Chapel, c'est pas américain. C'est vrai que le nom, on pourrait changer, on pourrait l'appeler la chapelle du calvaire. En français, c'est le calvaire, c'est pas très accueillant, quoi. On fait tout pour éviter les calvaires. Mais ce qui compte, c'est de réaliser que Paul dit à son protégé, enseigne la parole, enseigne la vérité. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes déjà un peu réveillé, mais en fait, il y en a pour tout le monde dans ce court passage. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est vrai que quand on est arrivé ici à Nice, il y a une vingtaine d'années, on avait à cœur de toucher les jeunes. On venait à la fac, on pouvait faire des choses. Et on avait une église très jeune d'étudiants. C'était un peu décourageant parce qu'à chaque fin d'année, les étudiants partaient et il fallait recommencer. Puis on a eu la bonne idée de commencer à prier pour que le Seigneur nous envoie des familles. Ce qu'il a fait, il a permis aussi que les jeunes et les étudiants se connaissent, s'apprécient et se marient et font des familles. Alléluia. Mais on voit que dans une église locale, il y a tous les âges, il y a toutes les situations sociales. Et ça, c'est, je crois, le signe d'une église saine. On n'est pas une église de retraités seulement, on n'est pas une église d'étudiants seulement, mais on n'est pas une église de personnes au chômage seulement, une église où il n'y a que des patrons, ou des gens avec des responsabilités professionnelles importantes. Il y a tout. Et ça, c'est déjà un témoignage. Il n'y a pas non plus de race, il n'y a pas non plus de religion d'origine. Tout le monde est appelé à venir à Jésus. Et ce qui est beau dans ce petit passage, c'est qu'on voit quand il y a toutes ces classes d'âge, de situation sociale, alors l'Église est riche. L'Église est riche et elle peut grandir en sagesse, en témoignage aussi dans le monde. Notre prière, c'est que oui, on puisse être ce genre d'église saine. Et ça commence par verset 1, pour toi, par opposition à ces faux enseignants dont il venait de dire au verset 16, le dernier verset du chapitre 1, ils font profession de connaître Dieu, c'est-à-dire qu'ils déclarent bien connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. Un test clé de la saine doctrine, c'est que ça va donner des actions saines. Vous pouvez avoir la meilleure doctrine, connaître... je pourrais vous lire le texte en grec, là, je l'ai sous mes yeux, là. « Delalei e prepei e gu ganaunotz » et dire « ça, c'est la doctrine, ça, c'est les mots d'origine, ça, ça ». Et puis en même temps, n'avoir aucun amour pour vous, n'avoir aucune joie dans le cœur dont on vient de partir, aucune gratitude, ça ne servirait de rien. Je nous rappelle 1 Corinthiens 13, je pourrais avoir sur le grand passage sur l'amour. Et l'amour, c'est non seulement des sentiments, mais ce sont surtout des actes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, il suffit d'une foi toute petite, comme un grain de moutarde, Jésus nous disait, si j'avais même ces petites graines de moutarde de foi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça c'est... On peut faire du social pour se donner bonne conscience. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, waouh, le sacrifice ultime. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien. Et Paul va dire à Tite ce qui doit être essentiellement enseigné à différents groupes de personnes. Alors il commence par les plus anciens, qui sont appelés ici les vieillards. Le mot vieillard, c'est un mot vieilli, et dans notre esprit, c'est souvent le quatrième âge. C'est la maison de retraite, l'antichambre du cimetière. Là, le mot, en fait, veut dire les gens qui ont atteint la maturité, les pères qui ont élevé leurs enfants. À ce titre-là, même si je n'aime pas le reconnaître, je pourrais être considéré comme un vieillard. Les vieillards, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les personnes âgées, les hommes âgés, les hommes mûrs, on dirait. Ils doivent être sobres. Ils doivent pas être dans les excès. Ils doivent être respectables. D'autres versions disent doivent être comme des révérends. J'ai des amis pour m'embêter qui m'appellent le révérend. Ils doivent être sensés, saints, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Autrement dit, On a vécu déjà assez longtemps pour faire des expériences de la vie, faire des études, commencer un travail, trouver un époux, une épouse, dans ce cas-là une épouse, j'insiste, si c'est des hommes, trouver du travail, travailler, élever des enfants. On est passé par des épreuves. Tout ça, ça devrait nous conduire à la maturité. Maturité dans les actes. Et c'est dans notre société, vieillir est très mal vu. On a, si on le veut, recours à la chirurgie esthétique pour maintenir l'illusion de la jeunesse éternel. Et donc on tolère les personnes âgées plus qu'on ne leur donne de l'importance. Il y a des cultures très différentes, des cultures où être ancien, être âgé, c'est une condition qui implique le respect des plus jeunes. C'est intéressant parce que dans la Bible, on a des exemples de personnes âgées qui ont fait des exploits. Dans notre société, on associe l'âge mûr ou l'âge plus important avec la retraite, on ne fait plus rien, avec l'idée de se retirer des affaires du monde ou des choses importantes. Rien ne devrait être plus faux que ça. On a beaucoup à apporter aux plus jeunes. Les entreprises commencent à le reconnaître un peu. Aux États-Unis, des entreprises se sont lancées dans l'embauche des ce qu'on appelle les seniors, avec des résultats remarquables. Il n'y a pas de problème de ponctualité, il n'y a pas de problème de manque d'énergie, parce que ces gens ont vécu ces choses et savent que une vie équilibrée, une vie où on fait de son mieux, c'est finalement la meilleure des façons de vivre. Un de mes héros, c'est dans le livre des Nombres, c'est Caleb. Vous vous souvenez, à 45 ans, il avait été l'un des témoins, plutôt des espions envoyés en terre promise pour aller voir ce qui se passait en terre promise avant qu'ils n'entrent, les enfants d'Israël n'entrent en terre promise. Et lui seul, avec Josué, qui a succédé finalement à Moïse, à la tête du peuple juif, lui seul a donné un rapport positif sur les chances d'Israël de remporter des victoires en terre promise. Pourquoi ? Parce que, alors que les 10 autres témoins regardaient aux difficultés, Josué et Caleb, qui étaient des hommes de Dieu, qui le connaissaient, qui avaient une maturité, on se sont dit, avec Dieu, on n'a aucun problème. C'est sûr, les murailles sont hautes, ils sont menaçants, on a l'impression de ne pas avoir de force, mais ce serait oublier que Dieu est avec nous. Et on sait que lorsque les enfants d'Israël sont entrés en terre promise, à l'âge de 85 ans, il a demandé qu'on lui donne une montagne. La montagne de Kiryat Arba, qui est devenue Hébron. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un logiciel qu'on utilise dans l'Église qui s'appelle Caleb, justement parce que la comptabilité dans une Église ordinaire, c'est une montagne. Arriver à sortir des comptes, heureusement que nous, on a un bon alpiniste, Sébastien, qui conquiert la montagne de la comptabilité avec l'aide de ce logiciel Caleb, à 85 ans. Et il disait qu'il avait encore envie de se battre. Et je vous encourage tous à ne pas voir l'âge avancé, les années qui passent comme un signe de découragement. Ces personnes âgées peuvent être des ressources formidables pour l'Église. On a eu de l'aide de personnes à la retraite qui sont venues nous aider ici, faire des travaux. Il y a des gens qui, après, au lieu de dire je vais prendre ma retraite et partir me bronzer à Saint-Tropez, ils disent je vais mettre mes talents, mes capacités au service de l'Église. Il y a des associations, il y a des groupes d'anciens travailleurs du bâtiment, par exemple, qui se propose d'aller aider des missionnaires à construire des églises, des écoles, des orphelinats. Et ces gens-là ont la meilleure des vieillesses, de l'âge mûr, c'est formidable. Mais pour ça, il faut être sobre, donc pas se lancer dans la boisson, dans des choses mesquines, respectable, être digne de respect, ne rien faire de mauvais ou de quelque chose qui pourrait offrir le flanc à la critique. Sensé, c'est un mot qui revient plusieurs fois dans ce passage. Il y a deux mots, il y a le mot de saint, c'est le mot qui nous donne le mot hygiène, comme une hygiène de vie, une hygiène de... Il n'y a pas d'extrême. On peut être passionné pour le Seigneur et avoir une vie équilibrée. C'est vrai que souvent on est appelé à des situations extrêmes dans la vie chrétienne. On peut se retrouver dans des pays où il y a la persécution. Mais l'idéal, ça ne doit pas être d'être un franc-tireur de quelqu'un qui met sa vie en risque tout le temps. Non, il doit y avoir un équilibre. On doit être saint dans la foi. On doit faire la part des choses. Quand on a l'expérience dans la vie chrétienne, on a vu des tas de modes arriver, brûler comme des feux de forêt ou des feux de plaine dans les blés là, qui parcourent des kilomètres, qui embrasent, semble-t-il, le monde chrétien. Et quelques années plus tard, ça retombe. Et quelques années, c'était la bénédiction de Toronto. Et ça allait amener le réveil sur la planète entière. Ça conduisait les gens à dire que l'Esprit Saint les contrôlait tellement qu'ils ne pouvaient plus se contrôler. Ce qui est complètement contraire à la Bible. L'Esprit est soumis, les prophètes, les prophéties sont soumis à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et à l'époque, les gens se roulaient par terre en aboyant comme des chiens. On trouvait « Oh là là !»« Oh !» Bon, mais ça, il y en a eu et il y en aura encore des choses comme ça. Est-ce que c'est en conformité avec la parole? Est-ce que je connais la parole? Est-ce que je suis saint dans la foi? Dans l'amour? Il n'y a rien de plus beau qu'une personne âgée, un chrétien âgé qui rayonne d'amour. Et quand je parle de ça, je pense par exemple au pasteur qui était venu ici, dont quelqu'un se souvient peut-être, Bill Gallatin, le pasteur Bill, je crois que Tia était là quand il était venu une fois. Et c'est un homme qui vient de perdre son épouse il y a un an, mais c'est quelqu'un qui est toujours joyeux. C'est quelqu'un qui est toujours optimiste dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui va vous encourager. C'est quelqu'un qui parcourt le monde pour aller encourager les missionnaires de un peu partout. Il a la foi, il a l'amour, il a la patience. Quelqu'un disait que Paul parlait des trois vertus, la foi, l'amour, l'espérance, mais que quand on arrive à l'âge avancé, C'est plus une question d'espérance, c'est une question de patience. Il n'y en a plus pour longtemps. C'était une boutade, mais être saint dans tous ces domaines, la sagesse. Et c'est remarquable aussi dans l'histoire chrétienne, il y a des personnes âgées qui ont accompli un travail fantastique. John Wesley, par exemple. À 85 ans, il confessait dans ses écrits qu'il avait tendance à se relâcher et à faire un peu la grâce matinée. Et la grâce matinée, il précisait que c'était jusqu'à 5h30 du matin. Ou alors il se plaignait qu'à son âge avancé, il n'arrivait plus qu'à lire et à écrire pendant 15 heures seulement. Et il n'avait pas de lampes électriques. Il faisait ça à la bougie. Mais en même temps, il a prêché des... où il se plaignait qu'il ne pouvait prêcher que deux fois par dimanche. Notre pasteur Chuck Smith, qui est à l'origine du mouvement Calvary Chapel, issu de ce réveil qui regroupait d'autres églises, parmi les hippies, parmi les jeunes qui étaient perdus et qui ont trouvé Jésus, il continue à prêcher plusieurs fois chaque week-end, malgré sa lutte contre le cancer. Et l'âge avancé n'est pas... Ne soyez pas déprimés. Je suis toujours triste, un peu envieux aussi par les jeunes qui sont déprimés parce que ils arrivent. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ah bon? Je vais avoir 30 ans. Oh, la jeunesse est finie. La jeunesse est finie. Non, la jeunesse, elle est, en plus aujourd'hui avec nos conditions de vie, elle est aussi longtemps que vous le voulez dans votre cœur. Et ne vous laissez pas déprimer parce que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Continuez, fixez vos yeux sur le Seigneur et servez-le. 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alors je vais me garder de préciser l'âge exact que c'est. Mais grosso modo, ce sont des mamans qui ont fini d'élever leurs enfants ou leurs enfants sont partis du nid familial. Disons qu'elles ont plus de temps, elles ont aussi là aussi de l'expérience. Et elles doivent se comporter en femmes mûres, pas essayer de s'habiller comme si elles avaient 30 ans de moins. Elles doivent avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Ça aussi, c'est quelque chose d'important de la façon dont nous habillons, que ce soit les hommes ou les femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui attire l'attention sur nous ou qui fait qu'on nous oublie et qu'on prête attention à notre vie, à notre façon d'honorer le Seigneur? N'être ni médisante. Et là, c'est un mot très fort, c'est le mot « diabolos » qui nous donne le mot de « diable ». Médire, passer du temps. Il est dit, juste une remarque, « doivent aussi avoir l'extérieur ». Ça veut dire que non seulement elles doivent avoir les qualités des hommes âgés ou des hommes mûrs, mais elles doivent aussi, en plus, avoir cet extérieur qui convient. Elles ne doivent pas essayer de faire de la chirurgie esthétique pour faire croire qu'elles sont nées il y a 20 ans, alors qu'elles en ont 60 ou plus. Elles ne doivent surtout pas utiliser leur langue pour dire du mal des autres. La langue, c'est pour le meilleur ou pour le pire, c'est comme le mariage. La langue peut faire tellement de bien, et la langue peut faire tellement de mal. Je vous renvoie au passage de Jacques, dans son épître, qui dit que c'est une toute petite chose, c'est comme un petit gouvernail, mais qui peut conduire des bateaux et ou qu'elle peut mettre le feu à la forêt. On a une arme redoutable qui peut être aussi un instrument de paix redoutable et d'encouragement. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis des autres? Et le diabolos, ça veut dire de lancer à côté de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, puis on lance des choses qui sont à côté, et on dit pas la vérité, on insiste sur des côtés négatifs, s'il y en a, mais c'est une chose tellement destructrice. Et si on se prend à dire des choses qui ne sont pas vraies, qui font du mal, des calomnies, Jésus nous disait que c'était comme si on était des meurtriers. Si tu dis « raca », alors vous dites, moi j'ai jamais dit raca. Mais peut-être vous avez traité les autres d'imbéciles ou d'autres noms d'oiseaux. C'est comme si on les assassinait. On assassine leur réputation, on dit du mal d'eux, c'est quelque chose de très grave. Et notre nature, c'est de réagir avec des mauvaises paroles, de réagir avec des mensonges ou de noircir le tableau. Et demandons au Seigneur, si nous voyons ça dans notre cœur, de nous en guérir, de nous donner la repentance, d'aller demander pardon, d'aller corriger les choses qu'on a pu dire, de ne pas être médisante. Et puis, c'est un peu curieux, ni asservie aux excès de vin. Et on ne sait pas si, à l'époque, ça devait être un problème. La génération de nos parents, l'alcoolisme était très développé parce que il y avait un alcoolisme social. Quand on se voyait, on prenait un drink. On voit dans les films des années 50, s'il n'y avait pas eu les cigarettes et les verres d'alcool, on se demande ce que les gens auraient fait de leurs mains à l'époque. Et si c'est dans la parole de Dieu, c'est, je crois, parce qu'il y a toujours un danger. Et c'est vrai qu'un homme sous, c'est un triste spectacle. Hier soir, je marchais dans la rue avant le match de l'OGC Nice contre le Paris Saint-Germain, il y avait déjà des gens qui étaient saouls. Et il y avait un gars en particulier qui insultait Zlatan avec des noms d'oiseaux, de gros oiseaux, j'allais dire. Il criait tellement fort qu'il y avait des gens qui sortaient dans les magasins 100 mètres plus loin pour voir s'il y avait un accident, s'il y avait un meurtre ou quelque chose. C'est triste de voir un homme sous l'effet de l'alcool, mais c'est vrai qu'une femme sous l'effet de l'alcool, c'est encore plus décevant, plus attristant. Il n'y a pas de raison, c'est le même péché quelque part, mais ces femmes, au lieu de se livrer à ces choses-là, elles doivent faire part de leur expérience, elles doivent donner de bonnes instructions. Et là, on va passer aux jeunes femmes qui se trouvent un mari, qui commencent à élever leur famille. Notez bien que ce n'est pas à Tite que Paul demande d'instruire ces jeunes femmes. Une bonne règle lorsque vous faites de l'évangélisation, c'est les hommes parlent aux hommes et les femmes parlent aux femmes. Alors c'est vrai qu'on peut commencer une conversation avec quelqu'un du sexe opposé quand c'est dans aux cieux et devant tout le monde, c'est moins un problème. Mais attention à ne pas établir des relations un peu particulières, un peu privées, parce que ça présente beaucoup de dangers. Une personne qui vient, quand une femme ou une jeune femme me demande de me parler, la plupart du temps, je dis « Nancy sera avec nous ». Pour pas que la personne puisse s'imaginer qu'elle peut me confier des problèmes qu'elle ne confierait pas à son mari, des choses comme ça. Et il y a une espèce de mauvaise, une intimité qui peut se créer, qui n'est pas saine et qui peut être source de danger. Très vite, de l'intimité, on peut passer à l'intérêt, à l'attraction. Et c'est un danger. Et là, c'est les femmes mûres qui doivent aller enseigner les femmes plus jeunes, elles doivent leur apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Et on a l'impression de dire, mais moi, mon mari, je l'aime. Il y a aimer, il y a avoir les sentiments amoureux, le tomber amoureux de quelqu'un, et puis il y a l'amour qui dure et qui va au-delà des problèmes, qui se pérennise, qui se cultive, qui se fortifie, et ça s'apprend. À l'époque, dans la société de Crète, sans doute beaucoup des mariages étaient arrangés, on n'avait pas le choix. Maintenant, on aurait du mal à revenir en arrière. Est-ce que vous auriez fait confiance à votre père pour vous trouver votre épouse ou à votre père pour vous trouver votre mari? Probablement pas. Et elles doivent être enseignées pour savoir comment aimer leur mari, d'abord, et leurs enfants. Et des fois, des petites choses qu'on note pas, mais regardez bien, c'est pas aimer leurs enfants et leur mari, mais aimer leur mari et leurs enfants. L'arrivée d'un enfant dans un couple bouleverse bien sûr les habitudes, et il y a le danger que, parce que l'enfant a tellement de besoins, que le mari soit négligé par son épouse au plan affectif et au plan sentimental, sexuel même, et ça pose souvent des problèmes. La Bible, encore une fois, dit « Apprenez à aimer vos maris et puis vos enfants. » Et les enfants aussi, il faut apprendre à les aimer. On dit « Mais on n'a pas besoin de m'apprendre à aimer mon enfant. Moi, je l'aime. » Mais il y en a qui savent qu'il faut les aimer de façon qui soit bonne pour eux, de pas faire tous leurs caprices, de les laisser pleurer dans leur lit s'ils ne dorment pas. On a des parents qui veulent en aucune façon brimer le petit être. Et il y a une grande mode dans les années 60, 70, de faire de l'enfant le roi de la maison. Jamais laisser pleurer. Parce qu'après, il va être traumatisé pour la vie. Après, il va falloir qu'il aille faire de la psychothérapie pour libérer son moi qui a été étouffé par ses mauvais parents. La Bible est bien antérieure à Freud, à docteur, j'allais dire docteur Seuss, mais c'est pas docteur. C'est la sagesse. Ces jeunes femmes doivent être sensées. Encore une fois, cette idée de pas être extrême, d'avoir du bon sens. Si, encore une fois, il faut apprendre ces choses-là, c'est parce qu'elles ne sont pas nécessairement naturelles. Dans la jeunesse, on a des aspirations, des sentiments, et c'est très bien, mais il faut du bon sens, remettre les choses un peu en place. Et les personnes plus âgées, les femmes plus âgées, peuvent apprendre aux plus jeunes comment ça se passe. Dans notre société, où les familles sont morcelées, divisées, souvent il n'y a pas le papa et la maman pour commencer, mais les grands-parents ne sont plus avec les familles, ils sont dans leur côté ou ils vont en maison de retraite. Et il faut enseigner les choses basiques. Il y a des jeunes femmes qui font des études qui ne savent pas faire cuire un œuf. Alors c'est vrai qu'avec Picard, on a de l'aide, on peut apprendre, mais c'est des choses que les femmes plus âgées peuvent enseigner aux plus jeunes, comment prendre soin d'un enfant. Nancy vient d'une famille de 12 enfants, elle n'a pas eu à apprendre à changer Tonio quand il était tout bébé. Mais par contre, il y a des personnes qui ne savent pas changer un bébé. Alors on donne rapidement une formation, comment traiter un enfant, comment ne pas l'amener aux urgences à chaque fois qu'il a un pet de travers. Désengorger nos salles d'urgence. Réduire le déficit de la sécurité sociale. Oh, c'est rien du tout, ça tu le laisses, tu vois demain s'il a encore de la fièvre, à ce moment-là tu appelles ton spécialiste. Oh, mais il pouvait plus respirer, je l'ai amené aux urgences. Alors, il y a des situations, encore une fois, dans le doute, ne vous abstenez pas. Mais en général, avec le deuxième enfant, vous êtes moins soucieuse qu'avec le premier, parce que le premier, vous avez tout découvert. Elles doivent être, alors là, je vais perdre une partie de mon audience, elles doivent être occupées aux soins domestiques. Quoi ? Moi, faire la boniche à la maison ? Moi, je veux une carrière, j'ai fait des études, j'étais plus fort, j'étais la première de ma promotion. Alors, rassurez-vous, il ne nous dit pas qu'une femme ne peut pas aller travailler dans le monde. Mais la priorité d'une femme, si elle est tentée qu'elle a des enfants, quand elle a des enfants, c'est sa famille. Alors, je sais que financièrement, des fois, c'est pas très possible, mais si, pensez-y. Ne cherchez pas seulement à pouvoir agrandir la maison, vos locaux, avec un deuxième gros salaire. Soyez sensés, parce que, surtout lorsque les enfants sont petits, les premières affections qu'un enfant fait avec les autres, ces trois premières années de la vie, c'est important qu'il y ait cette stabilité. Alors, surtout, ne le prenez pas personnellement si vous n'avez pas pu faire cela ou si vous ne pouvez pas faire cela en ce moment. Mais que ce soit dans votre esprit une priorité. C'est pas votre promotion qui compte autant que le bien-être de votre famille. Alors là, j'ai perdu une moitié des femmes, là. Maintenant, je vais perdre toutes les femmes. Que chacune soit soumise, chacune à son propre mari. Alors là, il ne faut pas exagérer. Mais là, on en a déjà parlé. Je vous renvoie à Éphésiens 5. Dieu nous donne des commandements. Il ne nous demande pas d'aller voir ce que fait l'autre. Dieu vous dit, mesdames, si vous êtes mariées, d'être soumises, ou potasso, placées sous, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, que vous valez rien, mais dans la chaîne de commandement, vous êtes sous le mari. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui donner votre avis. Je sais que vous, de toute façon, vous lui ferez savoir ce que vous pensez de ses décisions. Mais en dernier ressort, il est celui qui doit décider. Et si vous ne le laissez pas faire, vous allez récolter une famille qui ne sera pas selon la parole de Dieu, une famille qui ne sera pas bénie comme elle pourrait l'être si vous faites confiance à la parole de Dieu en disant c'est pas des choses qui sont liées, qui étaient juste valables en Crète, ces bandes de crétins, de crétois à qui il fallait tout dire. Non, c'est la sagesse, et en même temps, on sait dans Éphésiens 5, sans y tourner, Dieu nous dit aux hommes, aimez votre femme comme Dieu a aimé l'Église, en se sacrifiant pour elle. Si votre mari est prêt à se sacrifier pour vous, vous admettrez que c'est pas si difficile de vous accepter d'être soumise à lui. Et encore une fois, c'est un mot qui fait référence à la chaîne de commande dans l'armée, dans les organisations professionnelles. C'est être placé sous. Encore une fois, c'est en aucune façon de dire que vous êtes moins qu'eux. Le lieutenant, le capitaine Saint-Exupéry était sous les ordres de son colonel. On se rappelle du capitaine, on connaît même pas le nom de son colonel. C'était un génie, c'était un grand homme. Il était sous les ordres, il était upotasso en grec, sous, placé sous. Et il n'y a aucune raison de résister. C'est ce que Dieu vous demande. Et Dieu dit à l'homme de vous servir comme il est prêt à servir l'Église, c'est-à-dire à donner sa vie pour vous. Si vous faites votre part, Dieu va s'assurer que l'autre va faire sa part. Alors c'est pas toujours facile, et ne demandez pas à Nancy ce qu'il en est, mais passons, et ça c'est pour que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, qu'on dise pas du mal de la parole de Dieu. Encore une fois, la doctrine c'est une chose, mais ça doit se manifester dans la vie, dans la famille, dans l'Église. Exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards. Les hommes, les jeunes hommes, ils s'en tirent à bon compte. On vous demande simplement, messieurs, les jeunes hommes, de pas faire n'importe quoi, d'être sensés. C'est vrai que c'est quand on est un jeune homme qu'on a envie de gravir des montagnes, de sauter en parachute ou de sauter sans parachute. On fait des fois des choses un peu folles. Il y a un aspect très très positif, c'est là qu'on essaye plein de choses, c'est là souvent des jeunes qui ont fait repousser les limites des choses connues. Mais soyez sensés, encore une fois, ne faites pas des choses en dépit du bon sens. Et il invite Tite à être lui-même un modèle, un exemple, un type. Faire des œuvres bonnes et de donner un enseignement pur, digne, une parole saine, encore ce mot de saint, c'est le mot hygiène en grec. La parole est saine, on ne raconte pas n'importe quoi. S'il y a des choses qui sont parasites, vous connaissez la parole, vous les reconnaissez et vous les rejetez. Inattaquable, rien ne peut être dit contre nous qui soit vrai, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Ça c'est Satan, l'adversaire, qui puisse pas dire du mal de ceux qui enseignent de l'Église. Et puis, rapidement, exhorte les esclaves à être soumis à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Il nous exhorte, Paul exhortant Tite, à enseigner les esclaves. Alors vous dites, bon, les esclaves, c'était avec ces crétins de crétois et ces romains. Ils sont fous, ces romains. Mais aujourd'hui, on transpose facilement avec les employeurs et les employés. Alors vous dites, ah oui, ça c'est vrai, moi je suis vraiment un esclave de mon patron. Mais cette relation de travail, qui n'est plus une relation dans la famille, elle a aussi des vertus qui doivent être respectées pour être dignes et bibliques. Là aussi, vous devez être soumis en tout, vous êtes sous votre chef, et si vous voulez garder votre emploi, vous n'allez pas lui dire tout ce qui vous passe par la tête quand il vous demande de faire certaines choses. Sauf si peut-être elles sont en désaccord avec votre foi chrétienne, si on vous demande de mentir, de tricher, de faire des choses contre votre conscience. Mais sinon, vous dites oui, oui patron, oui patronne, si c'est une femme qui est au-dessus de vous. J'aime bien, certaines personnes ont du mal, on prie pour du travail. La personne trouve un travail et au bout de 2 semaines, le travail est perdu parce qu'elle n'allait pas se laisser faire par cet imbécile, etc. Soyez reconnaissant, Dieu vous a donné un travail, faites de votre mieux. Et puis, pour leur plaire, ne les contredisez pas. Vous pouvez suggérer peut-être poliment une autre idée, mais votre patron, il est votre patron. Quand vous apprenez à vous mettre sous, votre expérience va être totalement différente. Vous allez vous lever le lundi en disant « pas ça y est, je vais au combat », vous allez dire « je vais travailler ». Et vous allez être productif, vous allez être remarqué, parce que c'est rare que les gens ne rouspètent pas. Il suffit de voir les manifestations dans les rues de nos villes à tout moment. Ne rien détourner, ne rien piquer. La cartouche d'encre pour votre imprimante, qui se trouve être la même que celle que vous avez au bureau, elle doit être achetée par vous, elle ne doit pas être piquée au patron. Oh, j'ai jamais fait ça. Et les stylos qu'on en... Mais oui, mais ça fait de la publicité. Bon, si c'est des stylos publicitaires, à la limite, mais les trombones, le papier, toutes ces petites choses. Pourquoi montrez toujours une parfaite fidélité. Vous avez été embauché, soyez fidèle à votre entreprise jusqu'à ce que la situation se change et que vous ne soyez plus employé, mais faites de votre mieux. Donc on voit dans l'Église, il y a non seulement les relations dans la famille, il y a toutes les relations qui doivent être abordées. Et il dit à la fin, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Notre vie, elle va refléter sur notre foi. Si vous, les gens savent maintenant, parce que vous sortez devant là, que vous êtes chrétien et que vous comportez comme le pire des païens, les gens vont dire, ben leur foi, ils peuvent se la garder. J'en ai rien à faire. Le mot qui est utilisé pour honorer en tout la doctrine de Dieu, c'est le mot qui cosméo, qui vient du mot cosmos, qui est le mot qui nous donne cosmétique pour vous mesdames, et maintenant un peu des fois pour les messieurs, les cosmétiques. Qu'est-ce que c'était que le cosmos ? C'était le chaos arrangé par Dieu. Au début, il y avait rien. Après, il y a eu la chute, il y a eu le chaos, et de ça est sorti le monde. Lorsqu'on voit les étoiles, lorsqu'on voit les planètes, on est émerveillé par la beauté divine. Ça devient cosmique. C'est beau, c'est le cosmos. Et de la même façon, le matin, quand vous vous levez, c'est souvent, vous regardez dans le miroir et c'est le chaos. Et puis, vous vous embellissez, ça devient... Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de travail, mesdames, rassurez-vous, ça devient le cosmos. Vos cosmétiques vous ont peut-être aidé, mais ça devient beau. Et de la même façon, si notre vie n'est pas en accord avec les préceptes de la parole, le résultat, c'est quelque chose qui n'est pas beau. C'est chaotique, on peut avoir des gens qui sont pinailleurs sur la doctrine, mais qui manquent d'amour, qui ne sont pas une bénédiction pour les gens qui les entourent. Nous devons être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, au sein de l'Église et en dehors de l'Église. Et à ce moment-là, c'est la doctrine de Dieu, notre Sauveur, qui va être reconnue comme belle, qui va donner envie, qui va être vraiment quelque chose d'attirant. Il y a des fois des chrétiens, on dit, ils sont baptisés dans le vinaigre, jamais j'irai dans leur église. Si vous êtes dans la joie, si vous êtes dans la prière, si vous êtes dans la gratitude, si vous faites ces choses avec sens, avec du bon sens, éclairé par l'enseignement de la doctrine, l'Église de Christ va grandir. Amen.